Découvrez l'auteur derrière les mots dans Paroles d'écrivain.
Oui, eh bien, bonsoir. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Ojol pour son livre Canal du Maudit. On se doute qu'il s'agit
du Canal du Midi.
Canal du Maudit, exactement, publié aux éditions TDO. Vous étiez déjà venu, je vous avais reçu, bien sûr, pour plusieurs livres, notamment L'Orange des Sanguines, Le Seigneur est avec nous. Vous en avez publié quelques-uns, essentiellement de romans policiers.
Exactement, étant ancien policier.
Voilà, c'est ça. L'être le néant, Une femme parfaite, la mort est dans le pré. Vous étiez venu sur ce livre aussi, Le pré de la mort, RIP, et Beau temps pour les
couleuvres.
Les couleuvres, voilà. Bon, alors, donc je vous reçois pour ce livre, Canal du Maudit, qui est un livre particulier, puisqu'il est un peu quand même différent des autres livres. Alors, d'abord, si vous pouviez nous dire la genèse de ce livre, quand vous avez eu l'idée d'écrire ce livre, qui est un peu différent quand même d'une enquête policière.
C'est une enquête policière, mais disons qu'à titre personnel, il m'a été donné d'aller à Miami. Donc, juste au nord, alors, pour tout vous dire, à l'occasion de mariage. Et à cette occasion, bien sûr, j'ai visité les marais qui sont un petit peu au nord de Miami, qui s'appellent les Everglades. Et en visitant les Everglades, il y a une réserve indienne avec une tribu qu'on appelle les Miccosukee. Voilà, une tribu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y avait pas mal de petites tribus, mais qui était plus ou moins avec peu d'individus. Et donc, peu d'individus dans une tribu, ben, ça a créé des problèmes potentiels de consanguinité. Donc, il y a plusieurs tribus, à un moment donné, les Creeks, les Séminoles, qui ont été regroupés au sein d'un agglomérat. Et donc, les Miccosukee, c'est une tribu assez récente, mais qui donc est dans ces Everglades. Voilà. Alors, au départ, les Blancs les avaient mis dans les Everglades, précisément parce qu'il n'y a rien. Il y a des panthères, des alligators. Il n'y a rien du tout. Et puis, donc, ils ont quand même fait souche. Il y a eu des luttes contre les Blancs au début du 20e siècle. Et puis maintenant, donc, voilà, j'ai eu l'occasion de visiter un petit peu cette réserve. Et ça m'a donné une idée pour ce roman policier.
Voilà. Alors, quelle est l'intrigue principale? Alors, vous allez en parler rapidement, mais après, on reviendra dans les détails, bien sûr.
Sans tout déflorer.
Oui, une
double intrigue, voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est trouvé donc, dans les Everglades sur un cadavre ou une partie de cadavre, qu'importe, dans donc, ces marais de Floride. Et exactement la même chose, le même objet est trouvé à Toulouse, face à la gare, dans le canal du Midi. Donc, enquête d'un côté, enquête par le FBI local.
Local.
Voilà, bien que ce soit un peu délicat.
On en reparlera aussi.
On en reparlera. Donc, enquête du côté américain et évidemment du côté de la PJ toulousaine. Enquête d'un côté, enquête de l'autre. Et puis, au bout d'un moment, il y a une concordance.
Bien sûr.
Il y a un lien entre les deux. Et puis l'enquêteur toulousain se rend en Floride et réciproquement.
Voilà. Alors, les principaux personnages, bien sûr, on en a parlé, ce sont les deux enquêteurs. L'un qui est Bastide, de Toulouse, voilà. Qui était d'ailleurs dans vos précédents romans.
C'est un personnage récurrent. Un capitaine de police.
Et à Miami, c'est Linda.
C'est ça, Linda Parker, qui est une lieutenant, donc une jeune et jolie lieutenant donc, du FBI, et qui donc se retrouve confrontée à sa première enquête, mais à sa première procédure au sein de ce qu'on appelait autrefois les réserves indiennes. On le verra peut-être tout à l'heure, qui ont véritablement un statut particulier.
Alors, à Toulouse, ils trouvent le cadavre de...
C'est ça, il y a un cadavre qui est un cadavre dans le canal, et avec ce cadavre, il y a un objet, une bague pour le dire, une bague qui se retrouve être exactement la même que celle qui est trouvée sur un autre corps, dans les Everglades.
Oui, d'une partie du corps, puisque on ne retrouve pas le corps entièrement.
Une partie du corps.
Qui se trouve dans un alligator, d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Exactement. Parce qu'en fait, bon, il y a c'est un Indien, un membre de cette tribu des Miccosukee, qui part à la chasse d'énorme python. Il tue l'énorme python et puis à l'intérieur, il trouve quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver.
C'est Waban.
Un membre de cette tribu, donc des Miccosukee.
Alors, en France, il y a peut-être plusieurs personnages qui gravitent autour de messieurs des enquêteurs. Il y a le mari de... Parce que la personne qui est décédée, c'est une dame.
Oui, c'est une dame. Ah. Alors, c'est une dame qui travaille dans un casino bien connu de la région Toulousaine, toute une chaîne de casinos.
Oui.
Et donc, potentiellement, il est possible que ce soit lié à son travail, à la sécurité et au jeu, quoi, tout simplement. Et puis pas forcément.
Et alors là, vous faites... il y a deux enquêtes parallèles, bien sûr, qui... À quel moment, l'idée leur vient de se retrouver, finalement, pour... arrive-t-il à cette conclusion que, finalement, ces deux cadavres sont... Enfin, ces deux cadavres, c'est une partie du cadavre, et ce cadavre sont intimement, sont liés.
Parce que en faisant les fichiers et avec le fichier d'état civil, on se rend compte qu'entre l'identité de la personne décédée à Toulouse et celle qui est décédée donc aux États-Unis, il y a une alliance, il y a une concordance. C'était potentiellement mari et femme. Bon, donc il y a potentiellement un contentieux entre l'un et l'autre. Et c'est là où est fait le rapprochement. Voilà. Rapprochement dont on verra plus tard que ça n'est pas forcément eux, mais c'est une... Vous savez, quand on fait une enquête, au départ, on va, comme on dit vulgairement, on va à la pêche. Mmh. Et là, bon, les enquêteurs, ils font leur travail à la fois dans le côté du jeu, à la fois dans le côté des états civils, et puis petit à petit, commence à poindre, si vous voulez, cette optique des États-Unis et puis cette réserve indienne. Et beaucoup de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte.
Oui, il y a plusieurs intervenants, puisqu'il y a le fameux Waban, là, qui a découvert
la partie du corps
à Miami. Et ensuite, il y a deux personnages qui entrent également dans votre livre, nommés Joss et Sanders.
Voilà. C'est ça. Voilà, il y a plusieurs Américains qui sont ce qu'on peut appeler pour certains des Séminoles noirs.
Voilà.
Les Séminoles noirs, ce sont alors... Il faut savoir que les Séminoles se sont liés au début du XXe siècle avec d'anciens esclaves. Bon. Et ces anciens esclaves, évidemment, qui étaient des anciens Africains, des Noirs, se sont plus ou moins mêlés, ça a fait souche. Alors ce sont des gens qui ne sont pas forcément... pas forcément toujours bien admis de la part de certaines tribus, même manifestement, ils ont certes du mal à s'agréger, mais en fait, ces Séminoles noirs existent quand même. Et l'un de ces deux, Sanders, donc, est un Séminole noir qui est potentiellement, disons, au sein de l'intrigue et au cœur des soupçons de la police donc, de Floride.
Et alors donc, ils se retrouvent, ils mènent une enquête quand même parallèle au départ, mais ensuite ils se retrouvent les deux avec Linda, Bastide et Linda, à faire une enquête quand même commune.
Voilà. C'est ça.
Ils se rendent compte qu'il y a un lien entre les deux affaires.
Exactement. Disons qu'il n'est pas impossible que l'ancien mari donc de cette femme qui est décédée à Toulouse soit revenu en Floride. D'où l'intérêt pour l'un comme pour l'autre d'interpeller cette personne, dans la mesure où elle est toujours vivante, ce qui est encore autre chose. Mmh. Et donc ça donne ce qu'on appelle une commission rogatoire internationale. Mmh. Il part donc, mon enquêteur toulousain part en Floride et se retrouve confronté dans la réserve indienne, avec à la fois un tout autre biotope que celui du canal, évidemment, avec une tout autre mentalité, et il va apprendre beaucoup de ces Indiens d'Amérique, de leur manière de vivre. et puis des manières d'enquêter aussi du FBI.
Il part avec sa collaboratrice, une nommée Léa, également. Il n'est pas seul.
Voilà, il y a une autre, il y a une collaboratrice aussi qui reste, voilà, qui va rester elle peut-être en France, mais qui va être le lien avec la France. Lui part seul, parce que alors, déjà ça coûte très cher le voyage. Vous comprenez bien que le ministère de la Justice, qui est un des plus pauvres qui soit, ne va pas donner des vacances ou fournir des la moitié d'un service ou à la moitié d'un groupe de police judiciaire. Donc il part seul et il est accueilli là-bas par Linda qui lui sert, qui est son assistante en fait, qui lui sert d'assistance, et aussi par un collègue, par le collègue de Linda qui lui est également d'origine amérindienne, d'une autre tribu, mais qu'importe, d'origine amérindienne, et donc il va être confronté à toute cette mentalité et à pas mal d'aventures là-bas. Oui.
Et alors, en France, par contre, il y a deux personnages aussi dont on parle, dont vous parlez. Il y a la grand-mère, parce que le fils, puisque cette personne, sa mère est décédée. On soupçonne, on se demande si c'est pas son père qui...
Voilà,
il y a un soupçon, on sait pas du tout. Et alors, donc, ce gosse est élevé par sa grand-mère.
C'est ça, alors. Une fois la mère découverte dans le canal du Midi, évidemment, cette victime a toujours sa mère, qui travaille d'ailleurs, qui habite juste à côté de la gare Matabiau, donc qui est prévenue bien évidemment, et elle a également un gamin qui doit avoir une douzaine d'années, et qui est typé caucasien, comme on dit aujourd'hui, et amérindien. Bon, et ce garçon ne va pas faire partie proprement de l'histoire. Et donc il y a toute une enquête effectivement autour de la mamie qui va un jour recevoir quelqu'un aussi et qui va être retrouvé décédé. Voilà. Et donc en fait il y a toute une nébuleuse qui va être liée à cette tribu amérindienne et potentiellement à quelque chose au niveau de Toulouse.
Alors, donc, on en parlait à l'instant, il y a une relation étroite entre ces deux êtres. Et quelles sont leurs manières d'enquêter? Ils ont des manières d'enquêter différentes, celle-là américaine et la française,
Ils collaborent, bien sûr, mais les manières d'enquêter, évidemment, sont totalement différentes. D'autant que, et ça c'est très important à savoir, dans les réserves indiennes, il y a quand même un statut très particulier. Donc le FBI n'a pas forcément compétence pour toutes les procédures. Voilà. Quand ce sont vraiment des grosses procédures, type trafic, gros trafic de drogue, homicide, oui. Après, disons qu'il y a toujours une justice plus ou moins tribale. C'est-à-dire que les réserves ont leur propre prison, leur propre justice. C'est ce qu'on pourrait qualifier de justice coutumière. Voilà. On s'entend, tu me donnes ceci, je te donne cela, tu le refais plus. Voilà. C'est pas aussi procédural que ça ne peut l'être, évidemment, chez nous. En fait, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui est fondamental à comprendre, c'est que pour bon nombre de ces Amérindiens, ils veulent garder quelque chose qui sont proches d'eux, proches de leurs coutumes. Voilà. Donc certes, ils sont assimilés, ils font partie intégrante des États-Unis et de la justice américaine, mais malgré tout, ils ont gardé des compétences internes propres à eux et des manières de faire auxquelles ils ne veulent pas déroger.
Très bien, mais nous passons déjà à notre pause musicale. Et vous avez choisi, je crois, l'été indien.
L'été indien, forcément.
De Chogassin. Très bien, nous l'écoutons.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Bien, nous passons à notre livre Canal, le canal du maudit de Patrick Ojol, qui va nous lire un extrait de son livre. Nous écoutons.
Voilà, alors il faut replacer ce que je vais lire dans le contexte, c'est-à-dire que le fonctionnaire de police toulousain, donc, qui se rend en Floride, assiste à ce qu'on appelle un powwow, c'est-à-dire une fête traditionnelle amérindienne, une cérémonie spirituelle. Nous arrivons. Sentiment d'entrée par effraction. Devant nous, une foule d'Amérindiens, majoritairement vêtus de jeans et porteurs de casquettes, entourent et fixent une piste centrale où virevoltent des dizaines de danseurs. Je crois rêver, superbe. Je sens mes pupilles contrariées, tant la déflagration de couleurs est à son paroxysme. Rouge, vert, jaune, un véritable kaléidoscope m'irradie. Les tenues, par ailleurs splendides, se prolongent en des franges duveteuses qui épousent, qui absorbe l'air. Ce ne sont pas des danseurs que j'ai devant moi, mais des oiseaux, une vingtaine d'aigles multicolores qui tournoient dans un ciel leur appartenant. Ils le dessinent, le peignent dans la lumière soyeuse de leurs implorations. au diapason des tambours, leurs mots, leurs chants se collent à leurs gestes et à mon âme. Je ne cherche pas à comprendre ce qu'est le chamanisme. Trop tard, je suis avec eux, envoûté par ce rythme, par ce balancement hors du temps, par ces supplications, par ces dieux, ces esprits qui leur répondent. « Ce sont des vêtements en peau de dème, me dit Joey, et des coiffes sacrées. J'admire. Les femmes ont deux, trois plumées dans les cheveux, les hommes parfois des parures ostentatoires. J'ai compris. Je ne suis pas en compagnie d'humains, mais d'hybrides, d'osmose céleste, alliance viscérale de la nature, omnipotente greffe entre les créatures astrales ou terrestres, humaines ou pas. Et j'entends ces chants, paroles, mots d'avant les mots, d'avant tout, gutturale clameur vibrant ou du fond des âmes en des gémissements rauques, vite transformés en célestes incantations. Encore et toujours, les hommes tournent, autour de leur piste, autour de leur terre, piétinant l'enfer, exaltant leur errance grâce aux esprits qui les accompagnent, aux ancêtres qui les ont précédés et aux bêtes qui les guident.
Merci. Oui, et pour en revenir à notre enquête, sans dévoiler bien sûr la fin, bien entendu, c'était un policier. Mais en France, l'enquête s'oriente aussi vers le milieu de la drogue et des casinos.
Oui, alors, puisque... les casinos, oui, je l'ai dit, oui, puisque la personne décédée, retrouvée décédée, donc face à la gare Matabiau, faisait partie du monde du casino, et du monde du jeu, donc. Et puis, effectivement, alors il faut savoir aussi que entre le monde de la drogue et le monde du jeu, ben, tout est lié. Puisque quand on a beaucoup d'argent et quand on a de l'argent à blanchir, ben, de temps en temps, le milieu des casinos n'est pas exempt de certaines collusions. Donc, effectivement, le jeu, oui. Et puis ensuite, la drogue qui va être partie, le trafic de stupéfiants à l'échelle nationale, voire internationale, qui va être partie prenante, effectivement, de ce roman.
Et là, c'est l'enquête policière du Bastide.
Voilà.
Linda, de son côté...
Beaucoup moins.
Beaucoup
elle,
moins.
Elle va là. C'est surtout l'enquête au niveau des stupes va être française, va se baser à Toulouse, un petit peu dans le bas Languedoc aussi. Et puis, alors après, il va y avoir des ramifications un petit peu en Floride, mais très peu. En fait, c'est l'enquête des stupes est surtout française, mais Linda Parker finira quand même, elle aussi, par se rendre en France, parce qu'il y a peut-être une qualité, si on peut appeler ça une qualité, mais une qualité d'une variété de drogues qui est très, très, très connue. Ou de drogue, d'opiacé, qui est très très connu aux États-Unis et qui ne l'est pas fort heureusement en France. Donc il y a peut-être une tentative d'importation d'un type de cam, d'un type de drogue bien précis, d'où le lien qu'il peut avoir entre le côté américain et le côté français.
Oui, ce qui m'intéressait aussi, c'est là, vous l'avez parlé tout à l'heure brièvement, mais on pourrait peut-être y revenir, c'est sur justice dont vous avez parlé, vous avez dit qu'elle était peut-être une justice tribale, qui est différente de ce qui se passe en France, parce qu'ils sont un peu sur le recul, là. Quand ils voient qu'ils vont un peu trop loin dans l'enquête, ils ont un peu un mouvement de recul et d'hostilité.
Mais les Amérindiens ont leur précaré, ils veulent garder leurs coutumes, ils veulent garder leur type de justice. Du moins dans un certain créneau. Et c'est vrai que lorsque Linda Parker, qui pourtant a les compétences du FBI, les compétences américaines pour enquêter, ben, se trouve confrontée à un mur, ou du moins à une justice tribale, une police tribale qui fait de la rétention d'informations, et qui fait tout. Donc elle rencontre également ce Waban, celui qui était un petit peu à la base de la découverte. Ça se passe pas très bien au début, un peu mieux après, parce que chacun arrive à se comprendre. Mais c'est pas si simple. Et puis, alors, je sais pas si vous avez prévu la question, mais ce qui est très très important aussi, c'est de savoir que parmi ces Indiens, ces Amérindiens, certains sont devenus immensément riches. Et ça, alors, on peut penser par le jeu, et oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au au milieu du 18e siècle, il y a eu un couple dans une réserve indienne qui a eu un petit problème avec les autorités nationales, un petit problème immobilier. Bon, et ils ont perdu un procès, deux procès, et le troisième, finalement, ils l'ont gagné. Et à partir de ce moment-là, les responsables des réserves indiennes se sont aperçus qu'ils pouvaient faire à l'intérieur de leur réserve, d'accord, qui était donc une entité propre, à l'intérieur de leur réserve, ce qui n'était pas forcément admis dans le reste des États-Unis. Autrement dit, c'était, je ne dirais pas que c'était comme le camp d'Astérix, mais c'était un peu ça. Et imaginez un jeu, des jeux d'argent auxquels aux États-Unis on ne peut miser, par exemple, je vous donne un exemple, que 100 dollars. Ben, eux, ils se sont dit, mais là-bas, ils misent 100 dollars, ok, mais nous, on est un monde à part, une entité propre, donc on va permettre aux gens de miser non pas 100, mais 200 dollars. Et là, ils ont eu un afflux de joueurs, évidemment, oui, qui sont venus d'un petit peu partout, forcément parce qu'ils avaient des latitudes qu'ils n'avaient pas ailleurs, et de fait, certains sont devenus immensément riches. D'où bon nombre de casinos qui se sont fondés dans ces réserves indiennes, et donc le lien entre les casinos amérindiens et le potentiel lien qu'il pouvait y avoir avec un casino français dans lequel travaillait la personne décédée, oui, était fait. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est les stupes? Est-ce que c'est autre chose? Voilà.
Et pour décrire un peu ce qui se passe au niveau de cette justice tribale, les Mikosuke et les Séminoles, mm-hmm. Vous avez fait une enquête, je suppose, une documentation.
Oui, alors j'ai l'avantage, ayant un parent qui a fait souche aux États-Unis, oui. Je lui ai posé la question. Il s'est renseigné auprès d'un ami qui est fonctionnaire de police, non pas au FBI, mais dans l'équivalent d'un shérif. Et donc, il m'a donné effectivement des éléments d'enquête en me disant, en m'en prenant, que ces gens avaient leur propre prison, leur propre coutume, et qu'ils ne rendaient pas toujours compte aux autorités américaines. Quoi. Mmh. C'est vraiment... mais il est même arrivé parfois qu'il y ait des meurtres, des assassinats, et que les autorités n'aient pas été prévenues parce que les Amérindiens savaient, ou du moins se doutaient de qui ça pouvait être, et qu'il y a eu ensuite des transactions entre la famille du défunt et la famille du coupable. Mmh. Donc, vous voyez, autrement dit, on fait partie des États-Unis, mais pas tout à fait quand même. Oui. Hein. Voilà. Donc, je le répète, c'est un précaré, et c'est vrai que c'est pas évident d'aller enquêter dans ces réserves indiennes. En fait, les Américains leur ont donné... les ont mis dans des réserves plus ou moins infâmes, loin de tout. Ben aujourd'hui, c'est leur chez eux, c'est leur chez soi, c'est leur précaré. Ils se sont bâtis sur leurs propres coutumes et ils veulent effectivement les faire perdurer.
Cette partie-là, on n'est pas de la fiction.
Ah non, mais le but dans un roman qui est certes une enquête fictive avec des personnages fictifs, c'est que le squelette soit exact. Voilà. C'est-à-dire, quand je parle des Mikosuke, quand je parle des techniques d'enquête aux États-Unis ou en France, tout est vrai. Oui. Tout est vrai, tout est strictement vrai. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Il faut, c'est l'avantage d'un polar, certes. Oui, il y a un, deux homicides, et certes, c'est du roman, de la fiction.
Bien sûr.
Mais il faut quand même que pour moi, il faut que le lecteur apprenne quelque chose et visite cette réserve amérindienne avec toute l'acuité voulue et toute la certitude, toute la véracité souhaitée. Tout ce que je mets est vrai. Sinon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt.
Bon, je voulais vous demander, parce qu'on arrive malheureusement presque au terme de notre émission, vous avez un livre en préparation, je suppose,
Pas du tout, j'en ai deux en préparation.
Ah, deux, reste encore lui.
Deux en préparation, deux qui vont sortir cette année. Oui. Alors, l'un qui sortira aux éditions TDO, comme celui-ci, et qui traitera d'un problème géopolitique, qui partira de Toulouse et traitera un problème géopolitique avec le Grand Nord. Là aussi, on l'a vu avec Trump, etc. Mais enfin, c'est une réserve minière, gazière incroyable, donc qui est détenue là-bas. Et donc, je vais faire une enquête là-bas. Et l'autre partira dans un pays un peu plus chaud, puisque ce sera en Guyane. Mmh. Et je vais essayer de parler de leur paillage. Mmh. Autrement dit, de ces gens, de ces Brésiliens ou Surinamiens qui dévastent la forêt, évidemment, pour rechercher l'or, mais qui sont, entre guillemets, exprimez-moi l'expression, pendus parce qu'ils n'ont pas un sou. Donc ils empruntent tout l'argent pour acheter leur matériel, ils l'empruntent à des commerçants chinois. Alors quand les gendarmes, puisque il y a de la police là-bas, mais c'est surtout les gendarmes et des militaires qui travaillent en forêt, quand les gendarmes leur détruisent le matériel ou leur saisissent le matériel, ben ils n'ont d'autre solution que de refaire un autre emprunt, voilà, pour pouvoir vivre. Donc en fait, la vie, c'est sans fin. Mmh. Et donc je vais parler de ce problème de Guyane et de l'or guyanais.
Mmh, d'accord. Et donc ce sont des livres qui vont intervenir.
Voilà, l'un va arriver en février, je pense, les deux vont arriver en février-mars. L'un donc chez TDO, le second chez Kern. Et puis potentiellement, peut-être un autre qui sortira, mais nous aurons l'occasion d'en reparler en fin d'année, et qui sera lié alors à quelque chose de très, très, très intéressant, c'est les laboratoires pharmaceutiques.
Ah,
voilà,
oui.
Voilà. Laboratoires pharmaceutiques. En fait, j'ai fait, pour tout vous dire, lors d'un salon du livre, j'ai rencontré un grand représentant de labo pharmaceutique qui m'a expliqué beaucoup de choses. Donc, à la suite d'un repas, je l'ai enregistré et je n'ai rien perdu de tout ce qui m'a pu. Et, voilà, et ça m'a nourri le roman. D'accord. Après, toujours pareil, au travers d'une histoire et de personnages inventés, mais d'une structure totalement exacte.
Le fond
est totalement exact.
D'accord. Et vous faites, je suppose, de la promotion pour ce livre. Vous faites des salons du livre.
Oui, oui. Alors, je vais faire des salons. Ce week-end, c'est un petit peu loin, samedi, je serai à la FNAC d'Albi, mais surtout dimanche, il y a un très très beau salon qui se trouve pas très loin de Toulouse, à une trentaine de kilomètres, c'est à Avignonnet-Lauragais, c'est juste à côté de Villefranche-Lauragais, cet axe-là. Il y a vraiment des très bons auteurs, très très bons auteurs nationaux, on va être une trentaine d'auteurs, et c'est un salon qui y est depuis 3 ans, qui fonctionne remarquablement bien. Donc, c'est pas un salon du polar, hein. Donc c'est un salon générique, vous avez un peu de jeunesse, vous avez la littérature blanche, vous avez bien sûr du polar, mais vraiment c'est du très bon niveau.
Très bien. Eh bien. Écoutez, je vous remercie.
Merci à vous. Merci à Altitude FM pour votre accueil.
Voilà. Eh bien, écoute, je rappelle quand même le titre de votre livre, Canal du Maudit, par Patrick Ojol, donc aux éditions TDO. Et donc, je vous remercie d'avoir répondu à votre invitation. Et j'espère vous retrouver à l'occasion de la
parution avec grand plaisir.
De vos nouveaux livres.
Merci, Altitude.
Merci et à très bientôt. Au revoir.
Altitude FM.